Lesbienne.
Je vais maintenant vous présenter nos ambassadrices, puis je vais les inviter pendant que, alors que je nomme leur nom, à venir s'asseoir à la place qui leur est désignée pour le panel. Alors, notre première ambassadrice, il s'agit de Tamara Weber-Filion. Elle est née en Haïti, elle a grandi au Canada. C'est une jeune musicienne qui a commencé la guitare et le chant à l'âge de 12 ans. Vous l'avez peut-être vu en 2014 se produire à La Voix, et alors qu'elle était toute jeune vraiment, moi je me souviens. Et plus récemment, on l'a vu à The Voice pour porter haut et fort les valeurs qu'elle défend. Elle s'investit dans une association qui développe l'éducation en Haïti. Sa philosophie, la musique doit servir avant tout à faire du bien aux gens. Alors Tamara, je t'invite à te joindre à nous. Martine Roy a travaillé pendant 20 ans chez IBM à TD maintenant, mais aussi comme la personne qui milite pour les droits des LGBT, des personnes LGBT depuis tellement longtemps, connue pour son combat notamment dans l'armée, dans les forces armées canadiennes. Elle a été congédiée pour son homosexualité à l'âge de 19 ans. C'est elle qui a mené le recours collectif qui s'est conclu par des excuses du gouvernement fédéral en 2017 et qui a donné lieu au fond de la purge. Martine a siégé comme membre du conseil d'administration de Fierté au Travail Canada durant 10 ans, qui est un organisme basé à Toronto qu'elle a fondé avec 7 autres personnes. Elle a également été présidente de la Fondation Émergence jusqu'en 2015. Au fil des années, leader de l'inclusion en milieu de travail, Martine a reçu de nombreux prix et distinctions. En 2017, elle s'est vue décerner la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, très méritée. Martine, je t'invite à prendre place. Vous connaissez Eugénie Lépine-Blondeau comme chroniqueuse culturelle, évidemment, à la matinale tout un matin sur Ici Première. On pourra l'entendre tout l'été à la barre de l'émission C'est ma tournée, mais les vrais l'ont connue à CISM. Je pense qu'elle nous a toutes invitées là, pour parler de lesbianisme à l'émission féministe Queer, Les Dessous Féminins. Comme modératrice intervieweuse, on fait régulièrement appel à ses services, oui, pour les questions de diversité sexuelle et de genre. Elle s'implique notamment auprès d'organismes comme le Réseau des lesbiennes du Québec et Fierté au travail, Pride at Work. Je t'invite, Eugénie, à prendre place. Parfait. Et finalement, Nicole Lasselle, qui est impliquée évidemment au RLQ et dans le livre. Nicole Lasselle a présidé l'Assemblée de fondation du Réseau des lesbiennes du Québec et a même eu la première carte de membre du RLQ, la carte numéro 001. Sociologue de formation et consultante auprès de groupes de femmes, de groupes communautaires, d'institutions publiques, d'ordres professionnels et d'organismes privés, notamment à titre de présidente d'Assemblée et d'animatrice professionnelle tant au Québec qu'à l'étranger depuis plus de 30 ans. Elle est autrice de 3 livres et d'une centaine d'articles. Elle est une des fondatrices des éditions du Remue-Ménage et la première présidente de la Fondation Léa Robach. Elle est aujourd'hui présidente du conseil du RLQ. Je l'invite à prendre sa place parmi nous. Donc, à travers ce panel, aujourd'hui, on voulait parler du thème de la visibilité lesbienne, de nos expériences personnelles. En fait, on est sous le signe de l'histoire aujourd'hui, hein, l'histoire du RLQ et l'histoire des lesbiennes en général. Et c'est de votre histoire dont je voulais parler aujourd'hui pour ce panel. J'aimerais commencer par une question qui n'est pas nécessairement évidente puis qui va vous ramener très loin dans vos souvenirs. Comment vous avez été mis en contact pour la première fois avec la communauté lesbienne? Je commencerai peut-être avec toi, Tamara, puisque tu es vraiment la personne la plus proche de moi. Okay. Aucune autre raison.
Salut. Je viens d'une petite région, je viens de la Beauce. Je pense que c'est pas nécessairement quelque chose que... dans les grandes villes, c'est un peu plus ouvert d'esprit. On est peut-être confronté plus rapidement à ce genre de trucs-là. Puis moi, quand j'étais jeune, ben il y avait pas vraiment de gens qui étaient ouvertement gays ou lesbiennes. Puis j'ai déménagé à 17 ans à Québec. Puis là, c'est là que j'ai été un petit peu plus en contact avec la communauté. Puis j'ai commencé à me sentir un peu plus chez moi. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'hommes gays que de femmes lesbiennes. Donc, même à ce moment-là, j'avais personne dans mon entourage qui était lesbienne. Donc, je me retrouvais quand même dans les bars gays à essayer de faire ma place, mais je me sentais pas nécessairement à ma place à ce moment-là non plus. Puis, ça a été vraiment quand j'ai déménagé à Montréal que je me suis rendu compte que on a besoin de plus d'ouverture d'esprit, puis qu'on a besoin d'être de plus en plus confronté à ce genre de réalité-là, parce que ça a été quand même tard pour moi. J'ai déménagé en 2015, donc ça fait pas si longtemps que ça que je me sens plus chez moi et bien dans ma peau, si je peux dire comme ça.
Nicole, on a eu un aperçu toute la journée de votre histoire, de l'histoire des lesbiennes au Québec. Comment ça s'est passé pour vous, la découverte de la communauté?
Par un bar, évidemment. Non, mais sérieusement, j'étais lesbienne depuis... depuis que je voulais pas porter de robe, là, à 8 ans. Et c'est sûr que dans une école de sœurs et un collège classique de sœurs, on avait l'embarras du choix, là. C'était pratique à cet égard. Il y avait quand même des tabous, mais c'était ragoûtant, disons. À Montréal, j'ai décidé que je faisais le saut. Et à Montréal, il y avait, à l'époque où j'y suis arrivée, c'est-à-dire en 68, 4 bars. 4. Mm. Pas un, pas deux, pas trois. 4.
On a même parlé de soirées avec 900 lesbiennes tantôt, je m'en rappelle.
Absolument. On sortait. Out, ça s'appelait. Out. Et, c'est ça mon histoire. Et je l'ai découvert dans ce bar. 3 jours après y être allée la première fois, je me suis coupé les cheveux. Je les avais longs comme vous, à peu près.
Et moi, puis, c'est parce qu'il n'y a plus de bar. Ça.
Ben, exactement.
On ne sait plus comment faire.
Il n'y a plus besoin d'écouper. Mais sérieusement, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'aurais beaucoup à dire sur les bienfaits, même s'il y avait quelques petits problèmes de temps à autre, sur les bienfaits d'avoir des lieux physiques. Mm-hmm. Des lieux où aller.
Eugénie, comment tu as découvert la communauté à défaut d'avoir des lieux physiques? Ça n'a pas beaucoup marqué nos générations, j'ai l'impression.
Ma mère avait une amie lesbienne. Je me souviens que je la trouvais vraiment intéressante. Puis, il y a eu ça. Après ça, des années après avoir fait mon coming out, mon père, un jour, il m'a dit que la garderie avait appelé quand j'avais 3-4 ans. Parce que j'étais en train d'embrasser Michelle. J'ai aucun... Je me rappelle très bien de Michelle, mais j'ai aucun souvenir de ce moment-là. Puis mes parents, visiblement, m'en avaient pas parlé. Puis après ça, c'est venu, je pense, beaucoup par la culture. Le personnage de Jasmine, c'est ça, la policière?
Ben
Jasmine,
oui,
voilà.
Bien sûr.
Puis je me souviens qu'il y a un film... Ça fait des années que j'essaie de me rappeler c'est quoi ce film-là. J'ai aucun souvenir. Je pense qu'il y a Diane Keaton dans le film, mais peut-être pas pantoute. Puis tout ce que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, la fille du personnage principal répond au téléphone, puis elle est dans le lit avec une autre femme. Puis... c'est la seule chose dont je me rappelle de ce film-là. C'est vraiment la... Puis je me souviens que j'avais fait... Ah! Comme, ah, oh, wow, c'est, ça existe, puis c'est comme, c'est normal. Puis après ça, ben c'est passé par une amie qui s'appelle Ariel Duhem-Ross. Elle a maintenant... Elle habite à Brooklyn. Elle travaille pour Vice. Elle a plusieurs balados exceptionnels. Vous pourrez aller voir ça. Quand je l'ai rencontrée au Cégep, elle m'a appris l'existence du mot queer. Elle m'a aussi vraiment parlé de la communauté lesbienne. Je me souviens, on était une petite gang au cégep, j'allais dans un petit programme, puis le week-end, elle revenait, puis elle racontait genre, ce qui s'était passé au drugstore. Puis, puis là, j'étais comme... Ah, puis j'étais pas encore out. C'est comme l'année de mon coming out. Puis je me souviens qu'elle avait eu elle a eu vraiment une importance capitale là, dans ma vie parce que non seulement parce que c'est la première fois que je rencontrais vraiment, outre Lucie, là, l'amie de ma mère, quelqu'un de, ben, de mon âge qui s'assumait puis qui vivait ça, mais elle rendait ça vraiment cool. Puis il y a eu tout ça. Puis après, ben, il y a eu, tu sais, je te l'ai déjà écrit, Judith, mais de te lire.
Il y avait beaucoup, moi.
Il y avait toi. Non, mais de te lire dans le journal Métro. Puis après, Florence de LSTW aussi, ça a été des rencontres ou des marquantes. Puis après, ben, moi, je me suis dit, OK, moi aussi, là-bas. Puis c'est ça, en gros.
Je me souviens la première fois que Eugénie m'a écrit, elle m'a dit. Oui, j'ai fait un travail sur les lesbiennes et je pense qu'elle voulait me dire qu'elle était lesbienne. Martine, toi, j'ai l'impression que c'est dans l'armée que ça s'est passé.
Même pas. À l'école, au cégep, à Montmorency. Puis d'ailleurs, là, quand on m'a dit hey, t'es lesbienne, là, je suis rentrée comme une tortue.
Ah, oui.
Non, moi, je suis pas lesbienne. Puis là, j'ai sorti avec plein de gars. T'sais. Pour être sûre que personne pensait que j'étais une lesbienne. Puis après ça, ça s'est représenté. C'était mes amis gays, garçons, qui, là, laissaient leur blonde, puis qui se retrouvaient ensemble. Puis là, je faisais, « Hein? Wow! C'est vous flyer, ça! » Tu sais, moi, j'avais jamais vu ça dans les années 80, là, tu sais, avant l'armée et tout. Et finalement, ils m'ont convaincue de sortir avec la fille qui travaillait à la Gascogne sur le boulevard Gouin. Puis qui m'avait amené au Zut à l'or. Puis là, au Zut à l'or, j'en revenais pas. T'sais, c'était sur Stanley, je pense, quelque chose de même. Puis t'avais des tableaux de Grosgrove, ses murs. Puis c'était comme une cave. Puis là, tu cherchais les gars. Puis il n'y avait pas de gars, c'était toutes des filles. Puis là, j'ai fait « Wow! » Ah, j'allais rester. Puis j'ai commencé à sortir là. Puis finalement, j'étais allée au Labyris, qui était aussi une institution sur la rue Saint-Denis. Et j'ai rencontré Suzanne Gérard, qui avait parti Diversité, puis j'avais été sa blonde quand j'avais, justement, là, avant de rentrer dans l'armée.
Étais-tu cute, Suzanne?
Ah oui.
Visiblement.
Ah ouais.
Ça devait être quelque chose.
Elle restait avec Louise Roy dans ce temps-là, sur la rue Roy.
Ah, moi, j'adore vos anecdotes de vieilles lesbiennes.
Je veux juste dire que Nicole a utilisé le mot « ragoûtant » plutôt. Hein?
J'aimerais... OK, belle entrée en la matière. Vous êtes toutes impliquées à votre façon dans la cause lesbienne. Qu'est-ce qui vous incite à vous impliquer? Je commencerai peut-être par toi, Eugénie, puisque, je veux dire, on pourrait penser qu'aujourd'hui, tout est acquis, mais c'est pas nécessairement le cas.
Bien, je pense que d'abord, ça a été la volonté de se trouver comme une gang, puis une communauté, puis après, réaliser aussi à quel point, bien, comme tu l'as dit, t'sais, tout n'est pas acquis. Au Québec, au Canada, on a cette égalité de droits, là, mais après ça, on sait toutes que dans les faits, c'est pas la même chose. T'sais. Puis après, en intégrant tranquillement le milieu du travail... Bien, d'abord, tu l'as dit, à l'université, là, il y a comme eu un moment où j'étais genre, OK, je veux vraiment mettre de l'avant genre le féminisme puis éventuellement le lesbianisme puis le queerness. Puis c'est pour ça que j'ai développé une émission de radio à la radio de l'Université de Montréal pendant 4 ans. Puis là, c'est là où j'ai vraiment eu plein de rencontres. C'est là où j'ai rencontré Florence. C'est vrai que tu es venue souvent, Judith. Puis c'était juste de bâtir... C'était comme mes premiers contacts avec des personnes trans, des personnes ben, queer en général, non-binaires, tout ça, tu sais. Puis c'était des entrevues qui, heureusement, n'existent plus aujourd'hui. Je suis sûre que j'ai été très maladroite à certains moments. Mais c'est aussi des moments où j'ai appris énormément. Puis je me suis dit, OK, je dois porter ça toujours un peu dans ma petite poche toute ma vie, tu sais. Puis après, j'aurais voulu plus... J'aimerais aujourd'hui beaucoup plus m'impliquer concrètement, tu sais. Je le fais une fois de temps en temps avec le réseau des lesbiennes du Québec, avec Interling aussi, à d'autres moments. Mais à parce que je travaille à Radio-Canada, j'ai pas le droit, en fait, de m'impliquer, comme de m'associer publiquement à un organisme, là, peu importe c'est quoi l'organisme. Fait que c'est là où, ben, à chaque fois que je peux, en onde, parce que je suis en onde tous les matins, ben, je vais parler de ça, tu sais. Je vais dire les mots lesbiennes. Pas juste de même, là. Bon matin, lesbienne. Quoique,
tous les matins. Je m'appelle Eugénie Lépine-Blondeau. Je suis lesbienne. Voici la chronique culturelle pour aujourd'hui.
Mais il y a 4 ans, pendant l'été, j'ai animé une émission avec ma sœur aussi, puis ça s'appelait Tricoter serré. C'est une émission sur les sœurs, puis... ma sœur Magali, elle avait trouvé la brillante idée, je pense, de commencer l'émission. En fait, le but de l'émission, c'est de dire comment est-ce que même dans une même sororité, t'as beau avoir les mêmes parents, la même éducation, avoir grandi dans les mêmes endroits, tu deviens foncièrement différent. Fait qu'en intro, en fait, on se présentait, puis on marquait dans notre introduction comment est-ce qu'on était différente. Ma sœur disait « je suis hétérosexuelle », puis moi, je disais « je suis lesbienne ». Je pense que je disais « homosexuelle », j'aurais dû dire « lesbienne », mais quand même, c'est la même chose. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis j'ai reçu beaucoup de messages quand même... pas nécessairement comme lesbophobe, dans le sens « je vais te tuer », là, mais beaucoup de « faut-tu vraiment le dire? Mm-hmm. » Puis ça, là, ouais, c'est ça, esti. T'sais, c'était vraiment la réaction que j'avais à chaque fois. Surtout que, non seulement, oui, faut le dire, mais c'était aussi comme forcément le concept de l'émission, mm-hmm. t'sais. Fait que les gens qui nous écrivaient, c'était juste, ça allait pas bien, là. Puis après ça, voyant cette petite résistance-là, j'ai fait « ouais, ben je vais juste vous rentrer dans la gorge à chaque occasion que je peux. » Fait que mon petit militantisme, c'est comme ça que je fais, puis j'essaie de me rendre le plus disponible possible aussi pour d'autres causes.
Oui, d'expérience, là, à chaque fois qu'on fait juste mention de « ah, j'ai fait ça avec ma blonde en fin de semaine mm-hmm. » dans une émission de radio ou dans n'importe quel contexte public, on reçoit des messages mm-hmm. souvent très positifs pour dire « Ah, hey, c'est le fun d'entendre ça » ou tu sais, ça marque quand même encore les esprits, là. Fait que juste faire ça, ça fait œuvre utile, j'ai l'impression.
Je faisais la critique du film Buzz Lightyear, là, cette semaine. Pas important, mais il y a un baiser entre personnages de même sexe. Puis je l'ai dit en ondes à quel point, bon, c'est pas un grand film, allez pas le voir, là, c'est pas bien bon, mais ça m'a vraiment émue. Ce bec-là, pour vrai, t'sais, même si j'étais au courant, c'est en deux personnages féminins. Là. L'autre personnage parle pas. En tout cas, bref, c'est peut-être une personne non-binaire, mais bref, on peut assumer, je pense que c'est un baiser lesbien, une famille homoparentale. Puis Buzz, il dit donc à cette femme-là, « Ah, oh, t'as rencontré quelqu'un, comment elle s'appelle? » Puis il n'y a pas de coming out, il n'y a pas rien, t'sais, c'est juste vraiment présenté de façon banale. Puis j'ai dit en ondes à quel point ça m'avait vraiment ému en tant que personne de la communauté LGBTQ, puis j'ai reçu plein de courriels, effectivement, des messages de, comme quoi les gens ils disent que c'est encore important, je pense, de le mentionner. Tout ça pour dire, allez pas voir Buzz Lightyear.
Nicole, qu'est-ce qui fait que vous vous impliquez dans la communauté?
Oh mon Dieu! Écoute, ça date de très loin, mais je ferai pas toute ma vieille histoire, mais peut-être juste une affaire importante, extrêmement importante pour moi. J'aurais pu, dans le temps, parce que j'étais super butch, me poser la question de si j'étais vraiment une femme. Mais je ne pouvais pas, pour la bonne et simple raison que j'étais du bord de ma mère, j'étais du bord de mes amis, j'étais du bord des sœurs même, qui se faisaient écœurer par les prêtres. En tout cas, alors, c'était un choix. Je dis toujours, je ne suis pas lesbienne féministe, mais je suis lesbienne et féministe. Et c'est ça, c'était choisir un bord dans une lutte. C'était pas identitaire. Mm-hmm. Comprenez-vous la mm-hmm. différence?
Et ça crée une tension, par contre, au niveau de la pancarte.
Oui, la pancarte, elle trouve ça difficile à prendre.
C'est toujours des sujets délicats.
Mais sérieusement... C'était prendre un bord, choisir une lutte et, comment dire, la sexualité trouvait ça le fun comme décision. Mais disons que c'était à peu près 50-50 là, comme base de choix. Je choisissais les femmes. Mm-mm. Alors, peu importe mon tempérament sexuel, mon choix social, politique, affectif, amical, c'était les femmes. C'est pour ça.
Merci, Nicole. Tamara, toi, qu'est-ce qui t'incite à t'impliquer dans la communauté?
Je fais partie de plusieurs minorités, que ce soit visible ou pas visible. Et j'ai toujours eu un côté revendicateur et un besoin, un désir. La chose qui m'anime le plus, en fait, c'est l'équité de manière générale. Puis j'ai toujours eu le besoin de m'impliquer pour faire en sorte que les gens puissent tous se sentir égaux, peu importe c'est dans quel contexte. Donc, que ça... aussi, je suis une artiste dans la vie, puis je trouve que c'est pas une obligation, mais c'est une possibilité qu'on a de pouvoir parler, puis c'est pas tous les gens qui peuvent s'exprimer. Fait que pour moi, c'est important de pouvoir utiliser cette force-là que je peux avoir pour pouvoir aider les gens qui peuvent pas nécessairement le faire, que ce soit pour la communauté LGBTQ2S+, ou que ce soit pour toutes les autres injustices dans lesquelles je peux m'impliquer.
Martine, je sais qu'à chaque occasion que tu as de le faire, tu vas mettre de l'avant des femmes lesbiennes, tu vas mettre de l'avant des membres de la communauté LGBTQ+. Qu'est-ce qui te motive?
Un peu la même chose qu'à Nicole. Moi, c'est ça, c'est le côté femme, c'est qu'on est des femmes avant tout. Puis moi, je me rappelle même dans le temps que Bad Boys Club a commencé, avec le Black and Blue, j'avais fondé Bad Girls Club Montréal. Direct en dessous, mais avec eux. Tu sais, j'avais pas séparé. Puis je faisais des événements, d'ailleurs, tu sais, d'un bar de lesbiennes. Puis l'argent que je ramassais, je le donnais aux femmes qui se retrouvaient avec le sida. Finalement, le temps, en fait, que j'ai dû laisser, puis je suis partie au Nouveau-Brunswick, je suis revenue. Mais pour moi, c'est toujours ça. Puis là, tu vois, je dis tout le temps, si tu te retrouves dans une position dans la vie, que tu peux influencer puis changer ça, justement, parce qu'on le dit, là, dans la communauté, c'est les gars, ils ont monté, ils se sont retrouvés de l'avant parce qu'on les a appuyés pendant les années 90 puis ils ont été malades et tout, puis nous, on s'est laissés en arrière. Puis en quelque part, bien, on a été oubliés. Et moi, je suis chanceuse parce que j'ai réussi à me retrouver dans des places comme chez TD, puis dire, hey, TD, là, vous mettez 500 000 pour les fiertés pour les hommes, on peut-tu en avoir pour les femmes aussi? Puis à toutes les corporations, puis à tout le monde, puis à dire, hey, regardez, c'est pas égal, là, une femme lesbienne, une femme non-binaire, une femme queer, une femme trans, est où? Une femme hypoque, sont où ces femmes-là? Alors, moi, c'est comme ça, c'est de pouvoir. Puis je sais que, oui, avec la pancarte aussi, c'est important, mais des fois, de réussir à influencer de l'interne, tu sais, comme au fédéral, qui a échangé justement, puis qui... Moi, j'étais là, hey, vous donnez aux femmes, bien, les femmes, c'est les lesbiennes aussi. Donnez aussi aux organismes qui sont de lesbiennes ou de femmes bisexuelles. Au même niveau, les femmes aussi en leadership, on est tout le temps là, les femmes en leadership chez Desjardins, les femmes en leadership chez TD, puis tu regardes les femmes qui sont en leadership en haut, il n'y en a pas de lesbiennes, de femmes queer, de femmes de... So, il faut aussi s'élever, puis il faut vraiment, alors je suis d'accord avec Nicole, il faut vraiment se tenir toutes les femmes ensemble. Puis je pense que c'est là qu'on est ensemble aujourd'hui.
Ouais. C'est super intéressant. Tu sais, je regarde vos parcours, j'ai l'impression que vos façons de vous impliquer sont super différentes puis que ça apporte vraiment des bénéfices différents. Dans ce que vous avez fait, posé comme geste, qu'est-ce qui a été le plus utile à votre avis ou dans ce que vous avez vu comme geste militant dans votre parcours, qu'est-ce qui a été le plus... percutant.
J'ai jamais pensé que le recours collectif que j'étais pour faire, que j'étais pour gagner.
Ouais.
Puis pour moi, c'était vraiment Bravo. Important. Merci beaucoup. Mais c'était encore plus important parce que j'étais une femme de Montréal, au Québec, un recours collectif pan-canadien, puis que j'étais capable d'avoir notre voix. Puis, tu sais, même dans le film qui a été fait, le Fruit Machine, j'ai vraiment fait sûr qu'il y avait une voix, qu'on était là. Puis, tu sais, qu'on puisse continuer à avoir cette voix-là. Parce qu'on est souvent oubliés dans ces recours collectifs-là, nous, ici au Québec, puis aussi les femmes. Surtout quand c'est des choses par rapport à la communauté LGBTQ, on aurait dit qu'on nous oublie. Alors, pour moi, c'était vraiment... J'ai jamais pensé gagner. Puis, ça a marché. Puis, d'être capable aujourd'hui de redonner. Mm-hmm. Puis se servir de ça pour pouvoir redonner C'est pour moi la plus belle chose que j'ai réussi à faire.
C'était une question que je vous posais, mais en fait, c'est plus un constat que je faisais par rapport à vous. Tu sais, j'ai l'impression que tu redonnes, je faisais la blague, tu redonnes beaucoup d'argent à la communauté par l'entremise de TD, mais je pense que tu redonnes aussi à la communauté. Je pense à Florence, par exemple, qui est beaucoup... qui te nomme souvent en exemple comme mentor. Je pense que tu crées des liens entre les générations. Tamara, toi, qu'est-ce qui est le plus puissant selon toi comme geste militant ou comme façon de s'impliquer?
Je ne sais pas si ça va répondre nécessairement à la question parce que c'est toujours un work in progress. Mais plutôt cette année, j'ai participé à un espèce de petit documentaire qui s'appelait « Toutes les femmes » puis c'était sur les femmes en musique, justement. Puis c'était une espèce de discussion... C'était une espèce de discussion entre quelques femmes, justement, dans l'industrie qui m'a beaucoup ouvert les yeux parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup, de choses qui se passent à l'interne, puis même des fois, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais on n'est pas toujours des alliés de notre propre cause. Puis je trouve ça important en tant que femme de se tenir, puis je trouve ça cool qu'il y ait ce genre d'événement-là. Mais souvent, justement, même à l'interne, il y a du manque de tolérance puis d'acceptation. Puis quand on se rend compte qu'en fait, on est tous en train de mener le même combat, ben c'est là que je trouve qu'on a le plus d'impact quand on devient une équipe au lieu de se battre pour avancer soi-même. Quand on se bat pour avancer ensemble, ben c'est là qu'on est le plus fort. Ça sonne quétaine, mais c'est ça quand même. Puis j'ai trouvé ça intéressant de développer sur le sujet. Puis à chaque fois que je rencontre des femmes que je considère super fortes, là, bravo à tout le monde, ben c'est là que je me rends compte que si à la place de juste se battre, on se disait ok, ben toi de quoi t'as besoin, on peut le faire, on peut s'aider, ben c'est là que je trouve qu'on a le plus d'impact, puis qu'on peut toujours continuer d'en avoir.
Absolument. Tu as parlé de combats à mener. D'après vous, c'est quoi les combats qui restent à mener?
Lesquels qui restent pas?
Hein? C'est une vraie question.
Non, pas vrai, là? OK.
Mettons, non, prenez une priorité, là.
Non, je sais, on ne peut pas tout aligner. Mais elle l'a dit tantôt, avoir l'égalité juridique... Mm-hmm. Ce n'est pas la même chose que réel, social et politique. On est un petit peu à l'envers, nous autres. Nous autres, je parle au Québec, dans le sens où, et même au Canada, il y a énormément de lois qui ont changé, qu'on doit, franchement, il faut le dire, aux homosexuels et aux lesbiennes cachées, qui étaient députées, ministres, et qui ont plugué ça. Quand c'était le temps d'ouvrir les chartes ou d'en écrire une, sans qu'il y ait un fort mouvement derrière, ils l'ont fait parce que c'était leur vie, ils croyaient. Et franchement, ils nous ont rendu un grand service. Mais cela étant, un coup que la loi est là, hein, qu'est-ce qui arrive? Et là, on est encore là. On est encore là. Et... il y a beaucoup, beaucoup de fronts, je ne les nommerai pas tous, mais peut-être un des plus importants, c'est l'argent. C'est-à-dire, c'est l'équité salariale. Le fait que toutes les femmes, y compris les lesbiennes, aient les mêmes payes que leur équivalent masculin. Encore aujourd'hui, là... Encore aujourd'hui, le savez-vous, ça? Le premier rôle au théâtre féminin n'est pas payé la même chose que le premier rôle masculin. 2022! Puis c'est tout vrai, ça, là. Alors, on ne le sait pas, puis ils ne disent pas, là, parce que c'est pas beau. Hein, parler d'argent, c'est pas beau. On aime mieux parler de sexe dans notre société que d'argent. Alors que Dieu sait que ça a moins de conséquences la plupart du temps. En tout cas pour nous.
Alors, je vous invite à parler de vos salaires avec vos collègues masculins.
Absolument!
Eugénie, qu'est-ce qui reste? Mettons qu'il y avait un combat à mettre de l'avant, ça serait lequel, selon toi?
Bien, je trouve qu'il y a... Il y a comme tellement de lesbophobie dans tellement de choses, tu sais. Moi, je pense que pendant très longtemps, j'ai accepté, j'ai ri et j'ai même recréé des petites blagues qu'on fait avec le mot « Gwyn » ou avec « Ah, Eugénie, tu nous parles encore d'un sujet lesbien ou queer » ou genre « Ah, t'es encore impliquée dans une nouvelle affaire. » Puis là, tu sais, comme finir par faire des blagues sur moi-même. « Ben oui, je suis une caricature. » Puis ça fait juste quelques années que je refuse de recréer ça parce que d'un, je suis fucking fière. Puis je trouve que c'est une gang de taouins qui font ces blagues-là. Mais des fois, ça vient des gens qu'on aime vraiment beaucoup, tu sais. Fait que c'est ces petites affaires-là. C'est de surfer sur un site de clinique de fertilité puis se rendre compte que les formulaires sont père-mère. C'est avoir des commentaires sur les réseaux sociaux encore très lesbophobes. C'est avoir très peu de représentations, tu sais, finalement, qui sont féministes, lesbiennes, c'est d'avoir de la discrimination au sein même de nos communautés aussi, tu sais. Fait que c'est des combats de tous les instants. C'est ça. Fait que...
Tu me diras quel donneur vous avez choisi, parce que ça, d'après moi aussi, c'est un combat lesbien.
C'est pas ça que j'ai dit, là. J'ai dit ça.
Je te niaise. Martine, s'il y avait un combat à mettre de l'avant, ça serait quoi, selon toi?
Ben, pour moi, que ça soit justement égal dans la communauté. Qu'est-ce qu'on investit pour les hommes gays, qu'on fasse la même chose pour toutes les autres communautés au même niveau, là, tu sais, pas... Puis c'est ça qui m'a toujours achalée, tu sais, j'ai tout le temps senti, puis même, tu sais, dans les hétérosexuels, tu sentais toujours le regroupement des femmes, ah oui, vous êtes une... C'est la petite entité sur le côté, le regroupement des employés LGBT, la petite entité sociale. Et c'est pour ça que maintenant, que ça fasse partie des affaires, moi, j'ai travaillé fort pour que ça fasse justement partie des affaires, pour qu'on arrête de voir ça comme à côté. On fait partie des affaires, on fait partie des institutions financières, on fait partie des radios téléphoniques, on fait partie de tout ça. Puis il faut en être fier. Alors, c'est cette partie-là, moi, je trouve ça, c'est vraiment important.
Mais ce qui était présenté tantôt, puis l'article que j'ai jamais lu, puis en tout cas de Patrick Lagacé, là, sur la ghettoisation des lesbiennes, là, j'ai pas plus lu l'article depuis, mais je l'apprenais, mais il y a encore ce fond de mentalité-là qui est vraiment plus courant que ce qu'on ose se l'avouer pour nous protéger, là. Mais moi, c'est là où je suis comme, OK, c'est pas juste des petites choses ciblées qu'il faut changer, c'est comme on fait encore face à des murs, là. Puis ça, j'allais dire, ça me décourage, ça serait plate qu'on fait nos en même, là.
Mais tu parlais de Buzz Lightyear. Moi, je remarque encore comment tout ce qui est œuvre culturelle auprès des enfants, là, on associe tellement l'homosexualité ou le lesbianisme à du sexe. Alors, tu sais, on se dit toujours, pourquoi parler de ça aux enfants? Mais pourquoi vous parlez de votre mari aux enfants? Ou pourquoi vous parlez de votre femme aux enfants? En tout cas, les gens ne font pas le lien que c'est de notre vie dont il est question et pas juste de notre sexualité. Je pense qu'on est encore là.
Puis le film a été banni dans 15 pays quand même.
Là, il a failli être censuré même aux États-Unis.
À cause de ça. Puis moi, ça me touche. Puis quand j'en parle, c'est comme, ben OK, là, c'est bon, par contre, là, genre, c'est une nouvelle communauté, là, j'en passe à autre chose. Mais Chris, ça n'a pas de bon... Pardon. Ça n'a pas de bon sens.
J'espère que vous l'avez filmé. Tamara, s'il y avait un combat à mener?
Ben, c'est un combat. Tous les combats se rejoignent tous, mais mon rêve, là, ça serait que tous ces tabous-là soient cassés, puis que ça soit assez discuté, puis que ça soit assez visible, qu'à un moment donné, on n'ait plus besoin d'en parler, puis que tout soit juste comme normal, entre guillemets. Là. Fait que ça serait ça, ma réponse.
Merci, Tamara. Là, on est super en retard sur notre horaire, mais je ne sais pas, est-ce que vous aimez ça, cette discussion-là? Est-ce que vous voulez qu'on continue? OK, on va les prendre en rafale.
Non,
on passe à la prochaine. OK, on va faire ça vite pour closer ça. Pour vous, c'est quoi l'importance de la visibilité lesbienne? Tantôt, Eugénie, tu disais, je me définissais comme homosexuelle, peut-être que je n'aurais pas dû. Est-ce que tu as eu évolué sur ce sujet-là, puis est-ce que c'est grâce à moi?
Sans doute un peu. Es-tu cute, là? C'est ça que Nicolas dit. Es-tu cute?
Prise.
Sûrement, quelque part, un peu grâce à toi, Judith. Mais Bien, aussi, grâce au RLQ aussi, là, tu sais, à Florence, bref, à beaucoup de monde, mais c'est vraiment un mot que j'avais internalisé, que je trouvais laid, là. Tu sais, on en parlait à la journée de la visibilité lesbienne, justement, il y a quelques semaines, puis j'étais là, lesbienne. Puis même, les gens autour de moi, je me rappelle, là, je veux pas, tu sais, dans ma famille même, là, tu sais, on disait, bon, c'est beau, là, homosexuel, c'est beau, gay, mais lesbien, c'est-tu laid comme mot, hein? Puis comment tu fais quand t'as 17 ans, 18 ans, à dire, quand t'as pas de modèle à dire « Non, moi, je trouve ça beau comme nom. » Quand tout le monde est comme « On n'a rien contre ça, mais Chris, c'est laid comme mot. » Tu sais, comment tu fais pour te l'approprier? Fait que je pense que ça a été très, très, très long avant que je le fasse. Puis maintenant, ben c'est juste plus précis. C'est pas faux, ouais, je suis homosexuelle, mais je veux dire, c'est juste un petit peu plus précis. Puis je pense, encore une fois, c'est pour dire, ben quand tout le monde a un petit vertige de dire « Lesbien, lesbienne, je vais oser le faire. » Non pas sans petit vertige, dont je parlais sur Facebook, puis merci pour ta réponse, Martine, mais quand même, tu sais, je trouve ça important. Je trouve que c'est même parfois un acte de militantisme de le dire, tu sais. Puis dans nos communautés, on a deux, je pense, discours qui sont parallèles, là, parfois paradoxes, mais j'ai envie de dire parallèles. Il y a tout le queerness qui est fondamentalement le rejet des étiquettes, puis ça, c'est correct. Mais t'as aussi, moi, pour ma part, bon, des fois, je suis confuse, des fois, je me sens queer, mais sinon, c'est plus, je revendique pour moi cette étiquette très, très précise-là, tu sais, mais c'est très personnel.
Moi, de plus en plus, je me sens pas assez bizarre pour être queer, fait que je m'identifie vraiment comme lesbienne. Nicole, j'imagine que ça a évolué aussi, ta perception?
Oh, mon Dieu! Ma perception de quoi?
De la visibilité, de l'importance de la visibilité lesbienne.
Oui, c'est parce que, hein, on vieillit, là. Mais sérieusement, pour moi, la visibilité, c'est d'une importance capitale, collective, mais qui demande toujours une certaine prudence individuellement. Je suis vieille. Alors, non, bien, tu sais, et des fois, je me promène dans la rue, puis je vois des jeunes lesbiennes s'embrasser, puis j'ai peur. Mm. J'ai peur.
Pour elle?
Non, pour elle. Parce que un calvaire de méchants passe par là, puis en mange une, hein? C'est ça, là, qui me fait peur. Mm. Alors, je me dis, je suis pas folle. Si j'ai encore peur, c'est parce qu'il y a une raison. Mm-hmm. Hein? Je l'invente pas, cette affaire-là. Donc, pour moi, ce qu'il faut dire, c'est combien la visibilité collective est capitale, mais il faut se servir de son jugement personnel pour la visibilité individuelle quand on est toute seule ou juste deux. Parce que le danger est encore là. On n'avait pas tous les fous qu'il y avait aux États-Unis avec leur gun avant, là. Mais là, on dirait que ça monte un petit peu. Ça, là, c'est très, très inquiétant. On a été une société de tolérance où est-ce qu'on avait plus de fusils que les Américains, des carabines pour chasser? On ne s'en servait pas contre le monde. C'est très important, cette affaire-là, de la droite aux armes. Et il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, tout en n'étant pas parano. Mais c'est pour ça que je fais la distinction entre individu et collectif. S'il y a une manif, il faut y être. Parce que s'il y en a qui se pointent, on va être plusieurs pour y faire la job. Mais seul,
plusieurs lesbiennes, ça fait peur.
Ça fait peur, exactement. Puis quand on se présentait en bicycle à gaz dans les manifs, je peux vous dire que ça faisait de l'effet.
Hey, je suis pas née à bonne époque.
Ah, là, là. Ouh, dykes on bikes.
Maintenant, on est à vélo, là. Pareil.
À vélo, non, à Bixi. C'est drôle, c'est, non.
Dykes à Bixi, ça le fait pas, là. Martine, la visibilité lesbienne, pourquoi c'est important pour toi?
Oh mon Dieu. Ben, je suis un peu aussi comme Eugénie. Moi aussi, j'ai grandi lesbienne, j'aimais pas ça, lesbienne, tu sais, ça fitait pas. Puis je pense que c'est ça qu'on a fait, on a essayé d'embarquer dans le mot homosexuel parce que pour se dire on n'aimait pas ce mot-là et tout, puis on s'est perdu là-dedans. Il faut le dire comme il est, mais je pense que aussi, tu sais, ça, je pense que la société, qu'est-ce qu'elle a besoin, là, c'est pas de devenir plus masculine. Il faut qu'elle devienne plus féminine. Alors, c'est pas à nous de devenir comme les hommes. Je pense que c'est aux hommes de devenir comme nous.
Lesbienne.
Et ça aiderait. Tu sais, ça me semble, ça aiderait. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter. Je trouve beaucoup aussi, moi, je suis beaucoup dans le corpo, là. Je trouve beaucoup, tu sais, justement, les gens vont essayer de fitter avec la gang de boys, puis ils vont quasiment embrasser, faire les choses, puis de faire des commentaires, puis des blagues comme les boys, puis pour faire partie d'eux. Puis dénigrer aussi les autres femmes. T'sais, c'est pour ça que moi, vraiment, c'est super important la visibilité lesbienne. Plus que jamais, je le vois que c'est important dans le rôle que je suis. Puis en même temps, pour moi, que justement, on arrête de se dire « Hey, on veut être comme eux », que ça soit le contraire. Mm-hmm. Alors, je pense que la société, elle a besoin d'être féminisée, vraiment.
Ouais. Tamara?
C'est difficile de parler après des gens qui ont autant de belles choses à dire. Moi, ça a été long aussi avant de me rendre compte à quel point c'était important parce que j'avais l'impression... Mais en fait, j'ai jamais voulu que des gens me choisissent ou soient plus intéressés à moi pour quelconque raison, parce que je suis comme ça ou parce que je suis pas comme ça. Donc, j'ai eu tendance à pas nécessairement parler des différences de manière générale. Puis, plus je grandis et plus je me rends compte que, en fait, plus on en parle, plus ça devient accepté. Puis, j'ai l'impression que c'est la même chose pour les lesbiennes. Il faut juste en parler le plus possible pour créer la tolérance. Puis c'est ça que je trouve qui est important, d'en parler le plus possible, d'être là le plus possible, d'être vu le plus possible, d'être grand. De.
Merci à nos quatre panélistes, Nicole Hassel, Eugénie Lépine-Blondeau, Martine Roy et Tamara Weber-Pillion.